Alors ce dernier chant a quelque chose de particulier, c'est qu'il est très doux, mais il est très puissant. Et en fait, nous l'avons chanté, et cela m'a marqué lorsque nous étions allés chanter à la bouche de métro de l'Homme Lambersart, il y a 3 ans, je pense. Et bien qu'étant très calme, très doux, il rayonne et vraiment il a permis à des passants de s'arrêter et d'entendre ce message. La puissance n'est pas seulement dans le rythme, mais vraiment elle est dans quelque chose de particulier que Dieu lui-même apporte, et elle peut vraiment être dans la douceur. Encore prier. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce de ce que nous soyons réunis ce matin, de ce que nous puissions recevoir ta parole et nous instruire mutuellement, nous édifier par ta présence au milieu de nous, Seigneur. Amen. Il y a la pensée de l'année que nous avons exposée. Né de la poussière et d'éternité, j'ai vu la lumière, elle m'a racheté. Vous avez été racheté à un grand prix. Et à partir de ce moment-là, eh bien, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous appartenons au Seigneur, à notre Dieu, et il vit en nous dès l'instant où nous lui avons donné nos cœurs. C'est pour que le Seigneur vienne habiter en nous. C'est clairement établi dans le livre de Jean, chapitre 14, versets 16 et 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. C'est tout cet aspect de la nouvelle naissance en esprit, la présence de Dieu en nous, la vie nouvelle en Jésus-Christ par son esprit. Ce n'est plus moi maintenant qui vis, dit l'apôtre, c'est Christ qui vit en moi. C'est une réalité à laquelle nous faisons bien de prêter attention et que, voilà, il faut toujours se replacer dans cette communion du Seigneur qui est là dans nos cœurs, dans la personne humaine, dans son enfant. Que chacun d'entre nous ici puisse avoir le Seigneur qui vraiment réside en lui, parce qu'il lui a ouvert son cœur à travers sa parole et qu'il a obéi à ses commandements et qu'il a laissé venir habiter en lui. Mais un peu plus loin, le Seigneur emploie une expression légèrement différente au verset 23. Jésus lui répondit : si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alors ici, avec cette petite nuance, là, le Seigneur ne dit pas « nous ferons notre demeure en lui », mais il dit « nous ferons notre demeure chez lui ». Ce qui laisse entendre tout simplement la maison, sa demeure. Dans sa demeure, eh bien, nous aurons nous aussi notre demeure. Alors bien sûr, donc, on peut se poser la question, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ici? Est-ce qu'il veut parler encore une fois spécifiquement de notre cœur? Ou bien est-ce qu'il est encore en train d'ajouter que, eh bien, il doit aussi, avec son Père, venir habiter dans notre maison? Dans l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20, lorsque le Seigneur s'adresse à cette église apostate où il ne trouve plus de foi véritable, il appelle quand même quelques-uns. Et donc, Verset 19, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime, aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Encore une fois, c'est comme entrer dans la maison pour que le Seigneur puisse venir manger avec nous, mais inversement, que nous puissions manger avec lui aussi. Et nous savons qu'il y a un repas prévu dans la maison du Père où nous mangerons avec le Seigneur. Donc une personne, une famille, une maison, toutes les réalités que nous vivons aujourd'hui. Alors, chaque personne convertie a Christ en elle. Mais chaque famille gagnée a Christ au milieu d'elle. De la même façon que dans l'évangile, Jésus dit, Matthieu 18, 20, là où deux sont, ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Eh bien, si dans une famille, le nom du Seigneur est glorifié et que les membres de la famille sont unis en lui, eh bien, il est là aussi au milieu d'eux. Dans Actes 16, versets 31 à 34, voyons quelque chose de très intéressant, puisque l'apôtre Paul, avec Silas, ont été emprisonnés. Le Seigneur est intervenu par une action puissante et il y a ce geôlier qui entre précipitamment, se jette tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. La personne elle-même, ce centenier, qui est saisi de crainte et qui reçoit pour lui-même le message de l'Évangile, mais pas seulement, puisque cet amour de Dieu et cette crainte de Dieu s'étend immédiatement à la communauté qui vit autour, avec lui, autour de lui, à sa maison. Tous ceux de sa maison ont entendu la parole du Seigneur et ont cru, puisqu'ils ont été baptisés ensemble, non seulement lui, mais tous les siens ont été baptisés. Et puis, donc, ensuite, ça s'est poursuivi dans le logement, puisque les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Donc, vous voyez la progression de la personne à la famille ou à la communauté jusqu'au logement. Alors là, ce n'est pas directement le Seigneur, mais ce sont ses apôtres. Et donc maintenant, eh bien, à travers ses apôtres, le Seigneur est bel et bien dans le logement de ce centenier. Et puis, nous voyons le même schéma un peu plus haut, au verset 15, puisqu'il s'agit là de Lydie, à qui le Seigneur a ouvert le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul, alors qu'elle était dans un lieu de prière près d'une rivière. Elle a été également baptisée. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Encore une fois, ici, la conversion d'une personne entraîne la conversion de sa famille et entraîne l'ouverture de la maison pour que non seulement les apôtres y prennent un repas, mais y demeurent. Donc accueillir la parole pour soi-même, mais également tout de suite pour les siens, et faire de la maison la demeure du Seigneur. Dans les Actes, nous voyons que, bien sûr, les premiers disciples, au chapitre 2, verset 46, étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient de la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc il y avait aussi bien la dimension de l'adoration publique dans le temple que cette intimité du repas du Seigneur dans la maison. Paul rappelle dans les Actes qu'il n'a pas craint, au chapitre 20, verset 20, d'enseigner l'évangile. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Donc il y a, on le voit dans les premiers temps du christianisme, cette facilité d'ouvrir sa maison à la parole de Dieu et donc à la présence des serviteurs de Dieu. Et donc tout simplement, on peut dire au Seigneur, non seulement ouvrir son cœur, sa vie personnelle, mais sa vie de famille et sa vie sociale qui est totalement empreinte de la présence de Dieu. Et ici, le fait d'être dans la maison, ça ne signifie pas le repliement sur soi, mais au contraire, l'embryon de l'Église. Là, ensuite, il est plusieurs fois question dans les Actes ou les Épîtres des églises qui sont dans la maison de un tel ou un tel. En fait, donc chaque famille peut devenir un embryon d'église à partir d'une maison qui est totalement consacrée à l'œuvre de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque Jésus vient demeurer dans une maison ? Nous avons un exemple célèbre dans l'Évangile, Luc chapitre 19, versets 5 à 10. Oh, je vais prendre à partir du verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Donc ici, le salut a été reçu par le fait que Jésus est allé manger dans la maison de Zachée. « Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et Zachée l'a reçu. Et voilà donc ce qui a transformé la vie de Zachée par la simple présence pendant quelques heures à ce moment de Jésus chez lui, dans sa maison, à sa table. Eh bien, d'une part, son rapport au bien matériel a totalement changé, puisque je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et puis, son rapport aux relations, à la justice, à ce qui est vrai, a également changé, puisque si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Voilà, sachez qu'il est dans un esprit de réparation par rapport au tort. Il entre dans une relation de justice maintenant avec son prochain. Parce que Jésus est venu habiter chez lui, résider chez lui. Et bien sûr, maintenant, même si Jésus repart ailleurs, il reste dans le cœur de Zachée et c'est comme s'il était toujours là avec Zachée. Donc, voilà, la vie, les objectifs, les relations professionnelles, tout est changé lorsque Jésus vient habiter dans une maison. Oui, le cœur, la famille, mais pas seulement la famille, le lieu de vie, son logement en quelque sorte, se trouve transformé par le fait que Jésus vienne résider au milieu de ceux qui l'ont reçu. Notre lieu de vie accueille aussi le Seigneur et ses anges, puisque il y a des compagnies d'anges que le Seigneur envoie au service de ceux qui doivent hériter du salut. Dans l'Église, il est dit que les anges donc cherchent à pénétrer, à regarder ce qui se passe donc au sein de l'Église. Et dans une maison chrétienne où la parole de Dieu est proclamée, eh bien, ils sont là également. Et ils voient ce qui s'y déroule. Et je dirais que tous les aspects de la vie sont ainsi réellement impactés, visités, transformés par la Sainte Présence. La maison même, je dirais, dans la maison que nous cherchons, son implantation, sa structure, les objets qui s'y trouvent, la décoration, les équipements, l'entretien de la maison, tout ça est mis au service de la connaissance du Seigneur. Et tout devient conforme donc à la révélation de Dieu, à l'enseignement de sa parole, à son obéissance, à son service. Et pour commencer, rien ne vient plus choquer sa gloire et sa sainteté. Vraiment, dans nos maisons, sur les murs, sur les meubles, rien ne doit aller à l'encontre de la gloire de notre Seigneur. Ce que nous installons, il y a des choses, voilà, que nous vivons, on peut dire que nous ne maîtrisons pas, mais la manière dont nous installons notre maison, ça vraiment, ça nous regarde, ce que nous y laissons à demeure, eh bien, ça nous regarde, mais ça regarde aussi le Seigneur. Bien sûr, dans chaque maison, il y a un aspect d'intimité qui ne regarde que qui n'appartient qu'à ceux qui vivent là. Chacun a sa propre maison avec sa propre intimité, sa propre approche, sa propre décoration, voilà, sa sensibilité sur plein de façons d'être bien chez soi. Mais cette intimité doit s'accorder avec la connaissance de Christ. Dans la Genèse, au chapitre... Alors, il y a deux choses. Déjà, Deutéronome 6, versets 6 à 9. Il y a cette parole qui déjà concerne la loi du Seigneur. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Première chose, dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage aussi. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Voyez les commandements du Seigneur, le rappel de sa volonté, de ses lois, eh bien, étaient appelés à être inscrits donc sur les poteaux, les portes de la maison. Alors, eh bien, il arrive des moments où nous sommes appelés à faire le ménage, véritablement, comme malheureusement nous le trouvons régulièrement dans l'Écriture. Le peuple de Dieu laissait des éléments étrangers à la foi d'Israël s'installer dans ses maisons. Alors je prends un exemple, hein, Genèse chapitre 35 versets 2 à 4, alors que Jacob revient donc de l'étranger pour s'installer définitivement dans le pays de la promesse. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Alors, je ne dis pas que nous devons nous changer de vêtements à chaque fois que nous revenons au Seigneur. Il y avait un caractère de sainteté, on peut dire, extérieur, hein, chez le peuple de Dieu, qui passait par, c'est la même chose un peu pour nous, mais ça avait un caractère plus marqué, donc, dans le peuple d'Israël. Donc, la pureté physique était symbole de l'appropriation de Dieu, hein, l'appropriation de la sainteté du Seigneur. Dans notre cas, c'est un peu différent, mais il n'empêche que lorsque nous voulons glorifier véritablement le Seigneur par une vie qui lui est consacrée, eh bien, nous marquons une dignité également dans notre façon de nous habiller, hein. Qu'il faut, dit l'apôtre Paul, que les femmes, c'est au sujet des femmes âgées, je pense, à ce moment-là, hein, l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc, même pour nous, le fait d'être habillé correctement, proprement, de vivre dans un lieu propre, fait partie quand même d'une bonne relation avec le Seigneur, hein, nous ne devons pas laisser finalement s'installer dans nos logements le caractère de la négligence. Hein. Nous vivons dans un contexte de propreté qui, quand même, est une aspiration à la sainteté, même si elle ne peut pas se réduire à cela, et où il ne faut pas seulement, comme dit Jésus, nettoyer l'extérieur de la coupe et du plat et laisser les impuretés à l'intérieur. Donc, mais quand même, ça participe bien sûr à cet état d'esprit de pureté et de sainteté. Donc, pas de caractère de négligence dans nos logements, pas de caractère de, on peut dire, d'affichage de choses qui seraient de l'impureté morale, appel à la manifestation des désirs charnels, beaucoup de posters, d'affiches qui peut être contradictoire avec l'esprit de sainteté de la vie chrétienne. Et puis pas d'idoles, tout simplement, dans nos maisons, qui on peut dire serait à la face du Seigneur une sorte de provocation, on peut dire à vraiment le fait d'être uniquement dans la foi en lui. Donc tout cela, eh bien, vraiment, ça impacte l'ensemble de notre vie. Et si nous avons une maison, une famille, un cœur totalement au Seigneur, eh bien, il va pouvoir nous employer, se glorifier, à nous permettre d'avoir donc auprès d'autres personnes, d'accueillir dans notre maison aussi, bien sûr, ceux qu'il veut aussi mettre en contact avec sa vérité, avec son amour, avec sa grâce, parce que tout lui appartiendra. Donc c'était là où je voulais vraiment vous amener ce matin, comprendre que la vie chrétienne, c'est pas seulement vivre avec la relation personnelle avec le Seigneur. Il y a une extension de cette relation personnelle, ce cœur qui a été purifié par la foi, à nos relations proches, au lieu où nous vivons, et puis de là, eh bien, un impact sur la société dans laquelle nous vivons, à travers notre témoignage de vie digne, et puis aussi à travers après la proclamation publique de l'Évangile, parce que le fond de notre vie est bien établi en Jésus-Christ. Amen.